Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Podcast en série. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infanticide. Donc l'objectif, c'est de réellement comprendre quelles sont les causes qui amènent une mère à tuer son propre enfant. Donc c'est un sujet sensible qui interroge aussi bien la société que les professionnels de la santé et de la justice. Vous avez envoyé vos questions sur ce thème et je vais tâcher d'apporter le maximum d'éléments de réponse à vos interrogations.
Première question de Myriam. Qu'est-ce qui pousse une mère à commettre un crime contre son propre enfant ?
Alors déjà, au niveau des termes, on a certains professionnels qui marquent une différence entre l'infanticide et le néonaticide. Alors, dans les cas de néonaticide, on parle du meurtre d'un nouveau-né qui a moins de 24 heures, et dans les cas d'infanticide, on va parler d'un enfant qui a été assassiné lors de sa première année. Pour un enfant qui est tué après ses 1 an, on parle plutôt de filicide, où l'homicide en fait peut aussi bien être commis par la mère que par le père. Toutefois, c'est le mot infanticide qui revient généralement dans les médias. Alors pour répondre à la question, et bien comme toujours sur ce type de sujet qui s'avère quand même être un sujet délicat, complexe, on n'a pas qu'une seule explication qui pourrait venir nous éclairer sur ce type de passage à l'acte, mais on a plusieurs causes, et je dirais que les principales peuvent tourner autour des troubles du comportement ou des troubles mentaux qui viennent affecter le discernement et les agissements en lien. Aussi la dépression qui peut faire basculer une mère de famille, mais aussi tout ce qui concerne la mélancolie, une mélancolie profonde, et bien sûr la psychose. Donc on a une altération du comportement qui est provoquée par un trouble psychologique et qui ne permet plus de raisonner, qui ne permet plus de se contrôler et qui peut entraîner un passage à l'acte. Ensuite, et je dirais d'ailleurs que ça passe même avant les troubles du comportement, je pense au problème de gestion parentale, où il y a des cas où la mère a beaucoup de mal à répondre aux besoins de son enfant, que ce soit à cause de difficultés financières, de problèmes conjugaux, ou aussi un problème d'immaturité. En fait, l'immaturité de cette maman peut éventuellement entraîner un problème de gestion parentale, mais aussi, je pense à l'isolement, qu'il soit d'ordre social et ou familial. Donc tout ça, ça complique la vie de la mère et de son enfant, et ça peut entraîner une sorte de frustration, et si ça évolue jusqu'à la colère, ou surtout d'ailleurs si ça évolue à une détresse qui va devenir totale, eh bien il peut y avoir éventuellement un passage à l'acte contre l'enfant. On a aussi des cas de stress intense qui apparaissent après la maternité, qui est tellement vorace qu'il peut là aussi mener à une perte de contrôle de soi, de même qu'une grossesse qui n'est pas désirée, qui peut entraîner dans certains cas le rejet de l'enfant, donc soit en ignorant les besoins vitaux de celui-ci, soit en commettant des violences physiques, voire en le tuant. Il y a également les abus qui ont été vécus durant l'enfance de la mère, qui peuvent amener des difficultés relationnelles entre elle et son enfant, ce qui peut la conduire à négliger celui-ci, ou à avoir une incapacité à établir un lien avec lui. On a aussi des problèmes de consommation abusive d'alcool ou de drogue qui peuvent fortement diminuer le discernement, qui peuvent aussi entraîner des négligences très graves ou des actes violents sur le nourrisson ou sur l'enfant. Donc on peut voir que l'infanticide peut être lié à des troubles mentaux, mais surtout à des situations de détresse qui s'avèrent extrêmes et qui peuvent entraîner un geste qui est totalement tragique.
Charlie nous demande qu'est-ce qui pourrait alerter sur le fait qu'une femme va tuer son enfant.
C'est une très bonne question et c'est toujours assez difficile d'identifier à l'avance des signaux qui pourraient laisser supposer qu'une mère pourrait commettre l'irréparable sur son enfant. Après, on a quelques éléments qui existe, mais qui ne signifie pas pour autant qu'il va forcément y avoir un infanticide, mais en tout cas qui vont nécessiter une surveillance et bien sûr du soutien. Alors, comme dit lors de la précédente question, il faut être attentif aux femmes qui souffrent d'une profonde dépression et de tout autre trouble psychologique qui n'est pas ou qui n'est plus traité. Et s'il n'y a pas d'accompagnement, ça peut entraîner un risque potentiel qui nécessite d'être prudent, sans être paranoïaque pour autant, mais un état qui est confus ou un état qui est déconnecté de la réalité doit alerter les personnes environnantes. Également lorsqu'il y a des menaces explicites, des menaces qui amènent à dire « voilà, je vais faire du mal à l'enfant » ou des menaces de suicide de la part de la mère, eh bien il faut actionner de l'aide. De même qu'un discours qui est délirant ou des comportements bizarres envers l'enfant, eh bien ça doit amener une action de protection vis-à-vis du mineur afin d'être sûr que ce dernier ne soit pas en danger. Une mère qui a des colères excessives, qui est très impulsive dans ses propos, dans ses gestes, avec une réelle instabilité émotionnelle, là aussi ça nécessite de la vigilance. Parlons aussi de maltraitance antérieure sur l'enfant de la part de la mère qui requiert une observation attentive de l'environnement dans lequel évolue cet enfant parce qu'on doit impérativement s'assurer que là aussi, il ne court plus aucun risque. Une femme qui est totalement isolée et qui rencontre des difficultés pour élever son enfant va là aussi, bien évidemment, avoir besoin de soutien et d'accompagnement. Et alors évidemment, tous ces signaux que je suis en train de vous donner là ne permettent pas de prédire avec certitude qu'il va y avoir un passage à l'acte, loin de là, mais en cas d'inquiétude, il faudra une évaluation de la situation pour être certain qu'aucun acte violent ou qu'aucun acte criminel sera commis en direction de l'enfant.
Question de Gabriel. Y a-t-il des troubles mentaux spécifiques à l'infanticide ?
Alors non, il n'y a pas de troubles mentaux qui soient spécifiques à l'infanticide. On parlera davantage d'un état de souffrance de la mère qui est tel qu'elle peut vouloir en finir et empêcher aussi que son enfant souffre dans cette vie, comme elle souffre elle aussi, et elle peut donc le faire disparaître et dans certains cas disparaître avec lui. Les mères qui tuent leur enfant à cause d'un trouble mental qui est avéré, ça reste quand même très minoritaire. On trouve néanmoins des cas de psychose aiguë lors d'une dépression postpartum qui peut engendrer des pensées délirantes au sujet de l'enfant. Ensuite, on a une classification qui s'étire du crime à caractère altruiste à un épisode psychotique, mais aussi un crime qui est commis parce que l'enfant n'est pas désiré, et dans certains cas, on a même la vengeance qui vient s'installer au sein de cet homicide. Vengeance contre le père, mais on le voit notamment beaucoup dans les médias, on a le cas inverse, le père qui tue le ou les enfants pour atteindre la mère. Donc évidemment, au moment où ces mères de famille commettent l'acte de tuer, elles ne sont pas dans un état psychique qui est normal. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'elles sont folles. À ce moment-là, la détresse émotionnelle est tellement extrême, ou à cause d'autres facteurs, mais elles basculent temporairement dans un état qui leur fait perdre conscience du caractère inacceptable de leur geste. Donc c'est une forme de défense psychique. Mais dans la plupart des cas, elles ont ce réflexe d'effacer les traces de l'homicide, elles ont ce réflexe de cacher le corps, donc tout ça démontre bien que ce n'est pas de l'ordre de la folie. Donc généralement, ces mères n'ont pas de maladie psychiatrique systématique qui pourrait expliquer ce type de passage à l'acte.
Naomi nous demande comment réagit la famille de la femme qui commet l'infanticide.
Ça va dépendre de plusieurs paramètres. Du type de famille, de la personnalité de chacun. Au niveau du ressenti vis-à-vis de la mère qui a commis l'infanticide, il va forcément y avoir des émotions très contradictoires, hein, qui sont liées à la tristesse, à la colère. Donc il va y avoir une très forte ambivalence entre vouloir apporter son soutien, malgré tout, et condamner l'acte en lui-même. Donc le ressenti et l'attitude de chacun peut aussi diviser les membres de la famille. Donc tout d'abord, c'est un terrible choc, c'est l'incompréhension du geste qui est très très compliqué pour la famille, et il peut également y avoir de la culpabilité face au fait de ne pas avoir vu les éventuels signaux de détresse de la mère. Et puis il y a ce fameux déni qui est très souvent mis en avant pour les mères qui commettent le néonaticide, plus connu sous le nom de déni de grossesse. Mais on a aussi le déni du côté de la famille et plus principalement du côté du père qui va d'une certaine façon minimiser les faits et trouver des excuses à sa femme. Donc ça, c'est une façon de se protéger du traumatisme engendré par la situation, qui est également liée à la culpabilité. Donc il y a une sorte de détachement émotionnel par rapport à cet enfant qui a disparu. Et d'ailleurs, on voit des couples rester ensemble après l'homicide du bébé, où il y a une continuité et une sorte de, je dirais, de normalité familiale qui perdure dans le temps. Voilà, donc on voit que les enjeux psychologiques sont très complexes. Il ne peut pas y avoir de réponse unique face à un événement qui s'avère être totalement dévastateur.
Question de Rose. Quels sont les jugements ordonnés par les tribunaux pour condamner ou non les mères qui commettent l'infanticide ?
Dans les cas d'infanticide, il peut y avoir différentes condamnations. Pour ça, les juges vont se baser sur différents éléments, notamment en cherchant à savoir s'il y a eu préméditation ou pas, pour définir si oui ou non il y a eu une intention criminelle, ce qui est jugé plus sévèrement. Donc bien évidemment, il y a une évaluation de la gravité des actes qui ont été commis, donc le degré de souffrance qui a été infligé à l'enfant, et les juges vont également prendre connaissance des conclusions de l'expertise psychiatrique pour déterminer quel était l'état mental de la mère au moment des faits. Le but, c'est de comprendre s'il y a eu ou pas une perte de discernement au moment du passage à l'acte. S'il y a des antécédents judiciaires, bien évidemment, les juges en ont connaissance et vont pouvoir baser leur décision aussi là-dessus, notamment si la mère éprouve des remords face à son crime, ce qui généralement vient atténuer la peine. Au niveau des condamnations, c'est vraiment du cas par cas. Ça va de l'acquittement s'il y a un trouble mental qui a totalement aboli le discernement de la mère, avec un suivi médical. Il peut y avoir aussi une certaine clémence judiciaire si la situation psychologique le requiert, comme un déni de grossesse ou une dépression postpartum. Donc le juge peut, à partir de là, demander du sursis. Il peut également y avoir des peines de prison ferme, qui sont parfois ménageables. Dans le cas d'une peine de prison ferme, ça peut aller de quelques mois à plusieurs années d'incarcération, voire la perpétuité dans les cas les plus graves. Et très souvent, bien sûr, une obligation de soins psychiatriques. Donc, ce sont des condamnations qui sont très modulées en fonction de la santé mentale de la mère, mais aussi en fonction de sa situation personnelle.
Mathis nous demande comment sont soignées les femmes qui ont commis un infanticide.
Tout va dépendre s'il y a un trouble psychiatrique ou pas. Comme dit précédemment, c'est quand même loin d'être automatique, mais ces mères peuvent bien évidemment être prises en charge d'un point de vue thérapeutique, tout d'abord avec une hospitalisation temporaire qui va permettre d'évaluer son état, ou bien aussi pour la stabiliser en cas de crise, de manière à pouvoir ensuite l'interroger sur ce qui s'est passé. Elle peut également suivre une thérapie individuelle avec un traitement médicamenteux, si ça s'avère nécessaire. Cette mère peut avoir une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle peut être suivie par un psychologue ou un psychiatre, avec en plus des assistants sociaux. L'objectif, c'est vraiment de soigner ces femmes qui ont commis l'infanticide, déjà pour comprendre les causes et surtout, surtout pour prévenir tout risque de récidive. Ce podcast est maintenant terminé. L'infanticide, c'est un acte qui, encore à ce jour, pose beaucoup d'interrogations et c'est d'ailleurs pourquoi les condamnations sont si nuancées. Il faut tenir compte de beaucoup de facteurs qui sont, nous l'avons vu, multifactoriels. Pour en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez vous procurer 3 livres qui vous permettront de mieux comprendre ce type d'homicide. Le premier livre, Justice et infanticide, expérience des proches de victimes. Le second livre, Ils ont tué leurs enfants, approche psychologique de l'infanticide. Et enfin le troisième livre, L'infanticide en Chine, histoire d'une coutume meurtrière. Merci beaucoup de votre écoute, on se retrouve très bientôt avec un nouveau podcast. Prenez soin de vous.